Présenter. Je suis Albert Zandri, j'ai 56 ans, je suis né à la Martinique, je pense comme peut-être beaucoup d'entre vous, peut-être, hein, c'est pas, hein, il me semble qu'il y a plusieurs ici, hein, quand même. Donc, je suis marié, père de 4 enfants et grand-père de 2 petites filles, hein, qui n'ont pas encore tout à fait, qui n'ont pas encore un an, hein, donc c'est tout nouveau. Je suis aussi le pasteur de l'église de Saint-Denis, mais je ne suis pas tout seul, nous sommes 4 à être à l'église de Saint-Denis. Notre église vit actuellement, depuis 2-3 ans, une implantation, donc il y a une partie de l'église qui est partie, pas parce qu'ils étaient fâchés, mais pour au contraire implanter une œuvre. Donc on travaille ensemble et donc ça se fait petit à petit, donc on remercie le Seigneur pour cela aussi. Et en même temps, je suis prof dans un lycée à Paris. Voilà, donc je fais un petit peu, j'essaye de faire les deux, c'est pas toujours évident. En tout cas, on compte beaucoup sur la grâce de Dieu pour cela. Alors, l'église de Marolles, j'y suis venu quelques années quand même, il y a longtemps déjà. Un moment où Nicolas n'était pas là, je crois. Hein, et j'ai eu l'occasion de prêcher là-bas une fois, et j'étais vraiment gardé un bon souvenir, parce que j'étais bien accueilli, notamment dans une famille après. Et donc c'est avec une grande joie que je me retrouve ici avec vous pour partager la parole de Dieu. Alors, je crois que Nicolas veut qu'on ait un peu un temps de questions aussi. Donc si dans ce que je dis, il y a des choses qui vous paraissent pas claires, je ne suis pas toujours clair, hein. N'hésitez pas, hein, vous pourrez après me poser des questions. Et j'espère en tout cas que c'est durant ces échanges, ces études, on aura l'occasion encore de partager, d'échanger nos impressions, en tout cas sur ce que la parole de Dieu dit. Donc n'hésitez pas, hein, si je suis pas clair, je vais solliciter peut-être au fil de temps en temps votre participation pour au moins être certain que vous ne dormez pas pendant que je parle. Mais je pense que vu l'heure qu'il est, donc normalement on devrait pas avoir trop de difficultés. Alors, quand Nicolas m'a demandé de venir, j'ai dit oui. C'était au mois d'octobre, je crois, à la CBI, on s'est rencontré là-bas. Et puis quand il m'a rappelé quelques mois, peut-être plus tard, je me suis souvenu que j'avais dit oui. Et puis quand il m'a, donc j'ai continué à dire oui. Et puis quand j'ai commencé à préparer, j'ai dit mais pourquoi j'ai dit oui. Mais en tout cas, bon, je compte sur le Seigneur pour qu'il nous guide. Alors, le thème que j'ai choisi, c'est la première fois que je traite un peu de ce thème, mais, il n'y a pas très longtemps, les sœurs de notre église, elles font des retraites de dames et ont eu l'occasion d'étudier toute l'épître aux Colossiens. Et donc, à chaque fois, à sortir les grands thèmes. Et l'un des thèmes qui était ressorti, qui était traité, c'est celui de la reconnaissance, de la gratitude. Et c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est très important, parce que, d'une part, la Bible en parle, et puis on est confronté vraiment à cela. Alors, fallait trouver un titre, alors j'ai appelé cela, je crois, le devoir d'un esprit de reconnaissance dans une société insatiable, c'est-à-dire, comment est-ce que l'on doit développer cette attitude de reconnaissance dans un environnement qui est de plus en plus mécontent, insatisfait, et c'est ce à quoi la parole de Dieu nous appelle. Donc trois méditations que je vous propose. La première, que j'ai intitulée le déficit de reconnaissance. Là, on aurait pu dire autre chose, hein, mais j'ai voulu garder les titres qui commencent avec un D à chaque fois, je sais pas pourquoi, pour faire du 3D, ça sera pas un jeu vidéo, hein. Le déficit de reconnaissance, après, cet après-midi, on verra le devoir de reconnaissance, et puis demain, Dieu voulant, bien le défi d'une attitude de reconnaissance selon Dieu. Donc le déficit, premièrement aujourd'hui, le devoir cet après-midi, et puis quelques défis, demain matin, selon ce que Dieu nous donnera de faire. Alors je voudrais vous lire un verset. Écoutez-le, il dit « Cieux, écoutez, et terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Si ce n'était pas écrit « L'Éternel parle », on aurait pu penser que c'est un parent qui parle de ses enfants qu'il a élevés, qui exprime vraiment fortement sa reconnaissance. Donc ça, c'est dans Ésaïe, chapitre 1, et au verset 2, où Dieu s'étonne de l'ingratitude de ses enfants. Il dit « J'ai élevé les enfants, je les ai nourris, et ils se sont révoltés contre moi. » Et vous avez déjà peut-être expérimenté ce que provoque le manque de reconnaissance. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir fait quelque chose pour quelqu'un et de n'avoir rien entendu en retour. C'est pas que vous attendiez quelque chose, mais vous n'avez rien entendu en retour. Et parfois, les gens, ils nous écrivent et puis ils disent « As-tu reçu le paquet que j'ai envoyé ?» Je crois qu'ils sont certains que nous l'avons reçu. Donc, c'est pas tellement temps de savoir si on l'a reçu que de savoir pourquoi on n'a pas donné de signe. Autrement dit, pourquoi on n'a pas dit au moins merci. Et c'est quelque chose qui gangrène notre société. Et à bien regarder, on se plaint partout, je crois, du manque de gratitude les uns envers les autres. Soit un parent se plaint pour son enfant, soit une femme se plaint parce que son mari ne reconnaît pas n'a pas de reconnaissance, et ça peut aller bien sûr dans les deux sens, hein, ou le patron qui se plaint que les ouvriers ne voient pas, ou les ouvriers qui se plaignent concernant les patrons. Donc premièrement, on peut donc souligner vraiment qu'il y a un déficit de reconnaissance. Et premièrement, ce que je voudrais souligner, c'est que l'ingratitude est naturelle au cœur de l'homme. L'ingratitude est naturelle au cœur de l'homme. Il y a des écrivains qui ont pas mal parlé de cela, et je vous cite un ou deux. Alfred de Musset, peut-être que tout le monde connaît, je ne sais pas, hein, mais 1810-1857, dit « Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine ». J'ai trouvé ça intéressant comme phrase. Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. Il souligne par là que lorsque l'on fait du bien, souvent ça tombe en désuétude et ça disparaît comme si cela n'avait jamais été à cause de l'ingratitude. Donc l'ingratitude est vraiment faire à enterrer tout bien. Puis William Shakespeare, qui est un écrivain poète aussi, hein, 1563 jusqu'à 1616, écrit « Souffle, souffle vent d'hiver, tu n'es pas si cruel que l'ingratitude de l'homme. » Hein, j'aime bien ça. C'est-à-dire que l'hiver mordant, parfois, c'est insupportable, n'est-ce pas? Mais cet homme semblait dire qu'il préfère supporter les affres de l'hiver que l'ingratitude humaine. Donc l'ingratitude, vraiment, est naturelle au cœur de l'homme. Et la Bible dit que l'ingratitude est une marque de l'impiété. Alors, regardez avec moi Romains chapitre 1, je pense qu'on peut l'afficher ici, Romains chapitre 1, il faudrait que je mette mon horloge parce que je ne vais pas savoir. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Je vais mon chronomètre comme ça. Romains chapitre 1, verset 18, et nous lisons... que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice qui retiennent injustement captive la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque... ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et notez ceci, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et ce que l'apôtre Paul souligne ici, c'est que ayant une connaissance de Dieu, même à travers de la création, eh bien les hommes sont coupables parce qu'ils n'ont point glorifié Dieu comme étant Dieu, ce Dieu de cette création, et ils ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas dit merci à Dieu. C'est ça que ça veut dire, hein, ici. Et il montre que cette absence de reconnaissance, cette ingratitude, caractérise l'homme naturel pécheur. L'homme est caractérisé par le fait qu'il ne rend pas grâce, le fait qu'il ne dise pas merci. Cette ingratitude, donc, se voit à travers, bien sûr, on pourrait regarder l'histoire du peuple d'Israël. Hein. On voit, on ne va pas prendre le temps de lire des textes ici, mais le texte que je vous ai cité au début, où Dieu dit, « Cieux, écoutez, hein, tendez l'oreille, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Et toute l'histoire du peuple d'Israël est une révolte contre Dieu qui leur a fait du bien. Et les psalmistes, vous êtes psaume 78, psaume 106, rappelle ces vérités que Dieu a fait du bien, mais ils ne se sont même pas souvenus de ce que Dieu avait accordé comme bien. Mais je voudrais que nous regardions peut-être de plus près une illustration extrêmement tranchante de cette vérité dans le Nouveau Testament, un contexte que vous connaissez bien, Luc chapitre 17. C'est la rencontre de Jésus avec 10 lépreux. La rencontre de Jésus avec 10 lépreux. Luc chapitre 17. Et on peut lire à partir du verset 11. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Luc 17, 11 jusqu'à 19. Alors nous lisons la parole de Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La grande question de ce texte, c'est quoi? C'est les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'est la question que pose Jésus. Alors c'est la question que je vous pose ce matin, peut-être vous pouvez participer avec moi là. À votre avis, pourquoi est-ce que les autres, les 9 autres n'étaient pas là? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Je vous pose la question, j'attends vos réponses. Hein. Oui.
Moi, je pense qu'en fait, ils avaient juste des raisons, qu'ils n'attendaient pas d'être sauvés
oui. Dans leur péché. Oui, oui, on peut dire
et,
ça.
Et le sixième, en fait, lui, il a reconnu le soulagement.
Très bien, très bien. D'autres?
Moi, je pense que, bon, en tant qu'homme, les gens, quand ils ont quelque chose, quand ils reçoivent quelque chose, une fois qu'ils l'ont reçu, après ils pensent pas
ils pensent, oui, oui, oui.
À être reconnaissant.
Oui, voilà, très bien. Donc, on peut dire cela. Mais est-ce que vous pouvez dire, bon, c'est bien encore. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Mettez-vous dans la situation. Voilà, leur situation, vous êtes dans cette situation, vous avez été guéri. Qu'est-ce qui vient à l'idée de faire? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Oui. Oui, ça peut être ça, hein. Sans aller faire la fête avec qui? Avec la famille, peut-être, hein. C'était des lépreux. Les lépreux, ils n'avaient aucun contact avec les gens. Ils étaient parqués. Le texte dit qu'ils se tenaient à distance. Ils ne devaient pas s'approcher des gens. Et si des gens venaient à leur rencontre, ils devaient crier impur, impur, parce qu'ils étaient dans un état de mort vivant. C'était extrêmement contagieux. Imaginez, ils sont guéris, hein. C'est-à-dire qu'il y a toutes les barrières qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? Vous avez encore d'autres idées? Oui. 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 Qu'est-ce que Jésus leur dit? Pour aller dans le même sens. Allez voir les prêtres. Voilà, c'est ça. Oui. Oui.
Oui.
Plus que. Oui. On va y revenir aussi là-dessus. Très bien. D'autres personnes peut-être encore. Moi j'avais noté ici, peut-être ils ont trouvé que la vérification par le prêtre de la guérison était plus importante, oui. Était prioritaire, était la première chose à faire. Hein? Il faut aller faire certifier cette guérison. Peut-être ils étaient impatients de montrer aussi leur guérison à la famille. Hein? Quand on a quelque chose, parfois on court vite, il faut que je montre ça, hein? Il faut faire voir. Peut-être attendaient-ils aussi pour voir si la guérison allait tenir. Peut-être il dit, ouais, je suis guéri, mais on ne sait jamais, est-ce que ça ne va pas revenir, est-ce que, hein, il y a des gens comme ça, il dit, oui, ça va mieux, mais bon, mais pour l'instant, on ne sait pas encore, hein. Et, voilà. Peut-être aussi, j'ai mis, hein, ici, ils ont simplement remis à plus tard, je reviendrai voir Jésus, mais dans quelques temps, d'abord, il faut que j'aille faire ceci. Peut-être aussi ont-ils dit merci simplement dans leur cœur. Que le texte ne dit pas qu'ils n'ont pas dit merci à Dieu. Peut-être ont-ils dit merci. Ah, vraiment, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et puis, ils ont continué leur chemin. Et puis, peut-être, comme a dit tout à l'heure le frère, ils ont simplement oublié. Hein? On a reçu un bienfait et on a oublié. Ce que je voudrais souligner, c'est que, même si on a fait ce petit exercice, l'intention de Jésus, quand il pose la question, n'est pas de nous faire deviner ce que les 9 autres ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Pas tant de savoir où est-ce qu'ils étaient, mais nous faire comprendre où ils n'étaient pas et où ils auraient dû se trouver. Ils auraient dû se trouver comme le 10e au pied de Jésus pour lui rendre grâce. Ce que Jésus enseigne, c'est que le caractère naturel, parce que c'est de ce qu'on parle, rappelez-vous notre titre, hein, l'ingratitude est naturelle au cœur de l'homme. Le caractère naturel de l'homme se trouve où? Chez le 10e lépreux qui est revenu ou chez les 9 autres? Chez les 9 autres. C'est là que se trouve notre caractère le plus naturel. Et je voudrais souligner cela, montrer que cette naturelle ingratitude est mise en évidence ici par la différence des nombres qu'il y a ici. 9, 10, ça montre qu'il y a une tendance naturelle à l'ingratitude, et elle est montrée par la différence qu'il y a entre le nombre de ceux qui reçoivent une grâce et le nombre de ceux qui rendent grâce ici. Les 10, dit Jésus, n'ont-ils pas été guéris? Les 10 ont reçu la grâce de la guérison. Mais combien reviennent pour rendre grâce? Un seul. Et donc, cette différence ici montre que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui reçoivent une grâce, mais très peu qui rendent grâce à Dieu. Pourtant, la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il dit même sur les bons et sur les ingrats, en Luc. Hein. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, mais ils ne reviennent pas pour donner gloire à Dieu. Mais au lieu de parler des autres, parlons de nous parfois en tant que chrétiens, qui avons une conscience éveillée vraiment des grâces et des bienfaits de Dieu. Combien de fois nous rendons grâce à Dieu pour toutes les grâces spéciales ou même générales qu'il nous accorde? Bien, on a pensé peut-être à la pluie tout à l'heure, hein, et on s'est peut-être plus plaint qu'il pleuve que remercier Dieu pour la pluie. On aurait préféré le soleil. Mais qui c'est qui fait la pluie? Dieu. Qui c'est qui fait que la pluie tombe? C'est Dieu. Mais on se plaint quand même. Hein? D'accord? Et c'est une grâce que d'avoir la pluie, hein, n'est-ce pas? On est content d'avoir l'herbe, etc. Et c'est une grâce que d'avoir ces choses. Je me souviens, pour donner un exemple de moi-même, il y a 2-3 ans peut-être, je devais aller à Bordeaux dans un anniversaire, donc je suis parti tôt le matin de chez moi, je crois que j'ai pris le premier train vers 5h30, et ce jour-là, il faisait très froid, c'est le 1er décembre, il faisait vraiment très froid, et je suis arrivé sur le quai de gare, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est dans ce pays? C'est pas possible, il fait trop froid. J'aime pas cette période hivernale. Et puis, j'entre dans le train et puis j'ouvre la méditation soir et matin de Spurgeon. J'avais ça sur ma tablette. Et puis je lis, et ce matin-là, c'était le psaume 74, verset 17. Je vous le lis. Il dit, « Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Et après, Spurgeon développe sur toutes ces choses-là l'importance de l'hiver dans cette méditation. Pourquoi Dieu a créé l'hiver? Pourquoi on devrait être... le fait qu'il y ait l'hiver, qu'il soit froid, il y a beaucoup de bénéfices. Et que s'il y a l'hiver, c'est que Dieu tient sa parole. Parce que Dieu avait promis que tant que la terre subsistera, les moissons existeront. Et je me suis dit, mais c'était vraiment une réponse directe de Dieu à mon attitude juste quelques secondes auparavant, avant de prendre le train. Voyez? Et c'est pour vous dire qu'on a toujours cette tendance à se plaindre, n'est-ce pas? On a des grâces, mais on ne remercie pas forcément Dieu pour cela. Deuxièmement, la nature ingrate, n'est-ce pas? Notre nature ingrate est mise en évidence par le nombre de ceux qui prient et le nombre de ceux qui rendent grâce. Les 10 ont crié « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Mais combien ont rendu grâce? Un seul. Il y a beaucoup de personnes qui prient et peu de personnes qui rendent grâce. D'accord? Quand on fait des peut-être pas à Marolles, mais chez nous, dans les réunions de prière, eh bien, quand on doit dire quels sont les sujets de prière, eh bien, on trouve ceci, cela, la maladie, celui-ci, celui-là. On en a donné tout à l'heure. Et puis, on a dit, bon, quels sont les sujets de reconnaissance? Et là, on sent que c'est un sport extrêmement difficile. On trouve une ou deux choses, mais pensez vraiment. Si on vous demandait, si vous donnez des sujets de... comme ça, bon, on va dire des choses, mais quand on arrive dans une réunion, c'est difficile. On a plus tendance à demander qu'à rendre grâce. C'est quelque chose qui est plus difficile pour nous de reconnaître les grâces que Dieu nous accorde. Un auteur disait qu'on remarque la plénitude de l'esprit dans l'équilibre qu'il y a entre notre liste de requêtes et notre liste d'actions de grâce et de reconnaissance. Et je pense que ce que Jésus met en évidence ici avec ces 9 lépreux de côté, le 10e, c'est vraiment la différence entre le nombre de ceux qui prient et de ceux qui rendent grâce. Et puis cette nature d'ingratitude est montrée aussi par la différence entre le nombre de ceux qui s'attachent aux bienfaits et le nombre de ceux qui s'attachent aux bienfaiteurs. Souvent, il y a cette attitude pour nous. Hein. On s'attache à ce que l'on a reçu, mais pas à qui nous l'a donné. Et ça, c'est une chose qui montre notre caractère naturellement ingrat ici. Donc il y a beaucoup de croyants, n'est-ce pas, dont l'ingratitude est montrée de cette manière-là, même envers Dieu. Hein. On est content pour tout ce que l'on a, mais on oublie Dieu au sein même de tout ce que l'on a. Donc l'ingratitude est naturelle au cœur de l'homme. Et puis je voudrais montrer deuxièmement que l'ingratitude aussi conduit à l'insatisfaction. L'ingratitude conduit à l'insatisfaction. Une chose qui marque notre société et qui vient de... C'est cette insatisfaction. Nous vivons une époque de revendications sans limite. Plusieurs mois de gilets jaunes. Peut-être qu'il n'y a pas eu de gilets jaunes à Marolles. Hein, parce que tout va bien là-bas. Si, il y en a eu? Il y en a eu. Eh bien, nous, à Paris, vous avez vu aux informations comment les choses se sont passées. Beaucoup de choses étaient demandées pendant ces manifestations, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il y avait des choses qui étaient faisables, et puis des choses qui n'étaient pas. Il y avait des gens qui revendiquaient même pour une démission du président de la République. Ce n'est pas des choses qui sont faisables, on a une constitution, hein, ça ne se fait pas. Comme cela, j'ai même entendu quelqu'un dire oui, mais quand on est dans une entreprise et que ça ne va pas, si on est, le patron n'est pas content, il peut le mettre à la porte. On devait, si on n'est pas content du président, on doit pouvoir le mettre à la porte, comme ça. Mais on ne fait pas comme ça dans un pays. Que le président fasse bien ou qu'il ne fasse pas bien. Ce que je voudrais souligner en disant cela, c'est que suite à ces manifestations, je pense, même en décembre déjà, le président de la République est intervenu, n'est-ce pas? Et puis, il a débloqué presque une enveloppe, je crois, de 10 milliards d'euros d'aide de ceci ou de cela. Et là, on a interviewé, je me rappelle très bien cela, les représentants des Gilets jaunes. La première chose qui est sortie, la plupart d'eux, c'est oui, s'il te plaît, on va dire ça. C'est pas suffisant. C'est exactement ce que j'ai noté ici. Ça ne suffit pas. Le compte n'y est pas. Et ça, ça c'est toujours sérieux à l'issue. Et quelqu'un a dit, même s'il avait débloqué deux fois plus, ça ne suffirait pas. Pourquoi? C'est pas parce que ça ne suffit pas. C'est parce que nous avons un cœur non reconnaissant et toujours insatisfait. Et ça, la Bible nous le montre bien. Nous sommes insatisfaits. Et quelqu'un a dit même que l'insatisfaction, c'est le bonheur des ingrats. Si vous lui enlevez l'insatisfaction, il se nourrit de l'insatisfaction. Quand l'ingrat voit, il est content quand il y a de l'insatisfaction. C'est comme ça qu'il vit. Et notre société développe la culture de l'insatisfaction. Il faut le reconnaître. Tout est fait pour nous faire croire dans tous les domaines que le compte n'y est pas et que ça ne suffit pas. On nous assaille de pubs de partout pour nous faire sentir que ce que nous avons n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'une plus grande maison, d'une plus grosse voiture, vous avez besoin du dernier téléphone qui vient de sortir. Hein? Le iPhone d'avant n'est plus à la mode, il faut celui qui fait je ne sais pas quoi. Voilà celui qui marche tout seul hein, sur les pieds. Il faut toujours plus. D'accord? C'est pas suffisant d'avoir un téléphone qui ne fasse que la fonction téléphone. Il faut qu'il fasse plus que la fonction téléphone. Et c'est même devenu maintenant, pas si vous vous rendez compte, difficile d'offrir un cadeau à quelqu'un. Tellement on est insatisfait. Avant, les gens achetaient des cadeaux, ah, ça lui fait plaisir. Maintenant, on se creuse la tête pour offrir un cadeau à quelqu'un. C'est extrêmement difficile. J'ai lu ceci sur Internet dans une enquête de la Tribune en 2017. Il dit, il semble que les cadeaux de Noël se retrouvent en vente sur Price Minister, eBay ou Le Bon Coin et autres sites de vente en ligne, parfois même au soir du 24 décembre, sans que les cadeaux ne soient même ouverts. 46% des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël, donc d'après le site Price Minister, et les 18-34 ans représentent à peu près 62% des revendeurs. Parmi les principales raisons évoquées, écoutez bien, pour la revente d'un cadeau, 38% des personnes ont dit « le cadeau ne me plaisait pas ». C'était ça la principale raison. 35% disent « je n'en avais pas l'utilité » et 32% disent « j'ai préféré le revendre plutôt que de le jeter ». Et entre le soir du 24 décembre et du 25 à midi, d'accord, sur le site eBay en 2017, 100 000 nouvelles annonces. C'est-à-dire que vous offrez quelque chose à quelqu'un et il va le revendre tout de suite parce que ça ne lui satisfait pas. D'accord? C'est-à-dire derrière, les gens sont attachés au cadeau plus qu'au geste même que vous avez fait ici. Donc cette culture de l'insatisfaction, vraiment, elle existe et elle est l'arme du diable, je crois. Hein. Elle est l'arme du diable, même dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que le diable a fait avec Adam et Ève? Il a dit, vous ne pouvez pas être satisfait avec ce que Dieu vous a dit. Tu mangeras pas des... Non, elle a dit, non, on peut manger de tous les arbres du jardin, mais pas de celui-là. Non, 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 vous n'allez pas devenir... Dieu sait que vous allez devenir comme des dieux si vous en mangez. Il dit, vous avez droit à cela. Dieu ne veut pas que vous soyez... Non, 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 vous avez droit, hein, à être comme des dieux, manger de ce fruit. Je paraphrase un peu, mais c'est ce qu'il a dit ici. Et si on lit ce que Paul dit dans 1 Timothée 6,8, il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais quelle société maintenant va accepter cette parole-là? Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Le monde dit, ça n'est jamais suffisant. La Bible dit, si nous avons cela, nous devons être contents, cela nous suffit. Proverbe, 27-20 dit, « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. » Il n'est jamais satisfait. Et cette insatisfaction conduit à une mauvaise comptabilité. La culture de l'insatisfaction tient une comptabilité vraiment dans laquelle on apprend à compter ce que l'on n'a pas, et on oublie de compter ce que l'on a. Et que dit notre cantique qu'on connaît bien ? Compte les bienfaits de Dieu. Quand on est insatisfait, quand on est ingrat, on compte toujours ce que l'on n'a pas. Et on dit toujours, je veux ça, je veux des vacances comme tout le monde, je veux ceci comme mon voisin, je veux pouvoir voyager à l'étranger comme lui, je veux pouvoir, le peuple d'Israël avait dit, je veux un roi comme les autres nations ont un autre roi. On compte souvent ce que l'on n'a pas. J'ai lu ceci, c'est un auteur américain, psychologue, qui évoque vraiment une étude sur l'insatisfaction des gens, et il dit que quand les couples dysfonctionnent, c'est pas les chrétiens, mais il dit quand les couples dysfonctionnent, c'est rarement une question de qui fait quoi. Bon, on dit ouais, moi ça va pas parce que lui fait pas sa part, il fait pas sa part, mais il dit c'est pas ça le problème. Il dit bien plus souvent, il s'agit de gratitude à exprimer et à recevoir. Le plus grand problème du mariage dans le contexte contemporain, ce sont les efforts à faire pour cultiver la gratitude entre les hommes et les femmes. Et il ajoute, les mariages en crise se caractérisent par un inventaire des plaintes nettement plus long que l'inventaire des bienfaits. Et c'est souvent comme cela qu'on réfléchit. On regarde tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas. Et on ajoute, et on oublie de compter toutes les grâces que l'on a reçues. Et je pense que si on faisait ça, on s'apercevrait qu'on a plus de raisons, il y a eu plus de bienfaits que de choses mauvaises. C'est simplement parce que notre comptabilité est faussée, notre calculatrice, elle n'est pas bonne. Notre manière de taper sur les touches est mauvaise. Donc je voudrais dire ceci, chers frères et sœurs, en conclusion, parce que je ne vais pas être trop long. On doit apprendre quoi ici? On doit apprendre à reconnaître que ce péché nous concerne, l'ingratitude nous concerne tous, et demander à Dieu la grâce de ne pas se plaindre. La grâce de ne pas se plaindre. Jude 14 et 16 disent ceci, donc, avant-dernier livre de la Bible, nous lisons ceci dans Jude, il dit que le fait de murmurer, de se plaindre, ça caractérise vraiment les impies. Il dit ceci, verset 14, il dit, c'est pour eux, les impies, qu'Enoch écrit, le septième depuis Adam a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec les saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Il parle vraiment des impies. Plusieurs fois on voit cela. Il dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort et qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Il dit que les impies, ce sont des gens qui se plaignent de leur sort et qui murmurent. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous nous plaignons de notre sort et que nous murmurons, nous agissons comme des impies. C'est ce que la Bible dit ici. Nous agissons comme des impies. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, il dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Ici. Parce que tout murmure contre qui que ce soit, ou contre quoi que ce soit, n'est qu'une rébellion contre Dieu. On n'a pas le temps de le montrer, mais vous pouvez le trouver dans l'Ancien Testament particulièrement, avec le peuple d'Israël, qui murmure contre Moïse et Aaron. Exode 6, versets 1 et 2, nous lisons par exemple, que toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Puis au verset 7 du même chapitre, il est dit, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre qui? Contre l'Éternel. La Bible dit que le peuple murmure contre Moïse et Aaron. Et Moïse et Aaron, ils viennent et ils disent, bon, l'Éternel va faire ceci ou cela. L'Éternel a entendu vos murmures contre lui. quand on murmure contre les serviteurs de Dieu, contre son pasteur, contre qui? C'est pas contre lui qu'on murmure. C'est pas contre la pluie, les circonstances qu'on murmure. Quand on murmure sur le quai parce qu'il fait froid, ou qu'on murmure parce que le train est en retard, ce n'est pas contre la SNCF qu'on murmure. On dit qu'on murmure contre la SNCF. Mais on murmure contre qui? Contre, toujours contre celui qui a la puissance de changer les choses et qui ne le fait pas. Et quel est celui? Le seul qui a la puissance de changer les choses et qui ne le fait pas, c'est Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, cela. Écoutez ce que dit, je crois, c'est Moïse, hein, qui dit, dans Nombre chapitre 16, verset 11, il dit, c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Il dit, Aaron n'est rien. Quand tu dis, je murmure contre Aaron, c'est pas vrai. Aaron n'a aucun pouvoir. Je murmure contre le pasteur, c'est pas vrai. Il n'a aucun pouvoir. Oui, physiquement, je murmure contre lui. Mais en fait, dans le profond de mon cœur, ce que Dieu dit, lui, c'est que c'est contre moi que vous murmurez. Parce que vous n'êtes pas content de l'ordre que j'ai établi. Vous n'êtes pas content de la pluie que je fais tomber, ou de la température que je mets dans l'hiver. Donc c'est contre Dieu que l'on murmure. Cela est une chose que l'on doit vraiment considérer. Les murmures visent toujours celui qui a le pouvoir d'intervenir sur les événements sur les personnes et qui ne le fait pas. C'est-à-dire donc contre Dieu. Et un auteur a dit ceci, il a dit « L'esprit de murmure traduit le manque de foi en Dieu. » Il accuse le bien fondé de la justice de Dieu. C'est Thomas Watson qui disait ceci. Deuxième chose que je voudrais souligner en conclusion, donc reconnaître, on a dit ici que ça nous concerne, et demander à Dieu la grâce de ne pas se plaindre, mais deuxièmement, reconnaître aussi que ce péché nous concerne, et demander à Dieu de nous aider à vivre le contentement, et pas l'insatisfaction. Philippiens 4, 10, 12, on va l'afficher ici, l'apôtre Paul dit ceci, hein, Philippiens chapitre 4 et verset 12 et 6. Toute l'épître de Philippiens est une épître que l'apôtre Paul a écrit pour remercier les Philippiens de lui avoir envoyé un don. Il était en prison à Rome quand il écrit cette épître. C'est une épître vraiment d'affection pour cette église dans laquelle il remercie l'église. Et au chapitre 4 de cette épître, il dit ceci. À partir du verset 12, il dit, ce n'est pas que... Non, pardon, je ne suis pas dans Philippiens 4. Philippiens 4, il dit au verset 10, il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il remercie, il est vraiment reconnaissant au Seigneur pour cette église de Philippe. Mais il leur dit aussi, je ne veux pas que vous croyiez que j'attends de vous des choses. Merci pour ce que vous avez fait de tout cœur, mais j'ai appris à être content. Je ne suis pas insatisfait. Je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Remarquez qu'il a dit j'ai appris cela. Notre problème, c'est que on pense que l'on a appris des choses parce qu'on les a entendues. J'ai entendu le contentement. Je connais ça. C'est pas la peine. Je sais ce que c'est que le contentement. Non, ce sont des choses qui s'apprennent par l'expérience. Et ce que Paul dit là, c'est pas qu'il a une connaissance cognitive simplement du contentement, mais c'est qu'il en a une connaissance expérimentale. Et nous devons, pour vivre dans la gratitude, demander à Dieu la grâce de nous faire vivre cette expérience expérimentale du contentement. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il va nous mettre où nous n'aurons pas des choses, où il va nous enlever des choses, et où nous devrons dire quand même, merci Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu agis avec sagesse. Donc, que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Nous avons un cœur naturellement ingrat. Mais Dieu, dans sa grâce, peut transformer nos cœurs, peut nous donner des cœurs de reconnaissance. Nous allons voir cet après-midi, Dieu voulant, l'attitude de ce que l'on doit dans ce devoir de reconnaissance.